Chapitre 2 Autre masque. Rastignac se conduisit alors comme un millionnaire sur la grande route en se voyant mis en joue par un brigand. Il capitula. « Mon cher comte, dit-il à Châtelet, vers lequel il revint, si vous tenez à votre position, traitez Lucien de Rubempré comme un homme que vous trouverez un jour placé beaucoup plus haut que vous ne l'êtes. » Le masque laissa échapper un imperceptible geste de satisfaction et se remit sur la trace de Lucien. « Mon cher, vous avez bien rapidement changé d'opinion sur son compte, » répondit le préfet justement étonné. « Aussi rapidement que ceux qui sont au centre et qui votent avec la droite, » répondit Rastignac à ce préfet député dont la voix manquait depuis peu de jours au ministère. Est-ce qu'il y a des opinions aujourd'hui? Il n'y a plus que des intérêts, répliqua Deslupeaux qui les écoutait. De quoi s'agit-il? Du sieur de Rubempré que Rastignac veut me donner pour un personnage, dit le député au secrétaire général. Mon cher comte, lui répondit Deslupeaux d'un air grave, monsieur de Rubempré est un jeune homme du plus grand mérite et si bien appuyé que je me croirais très heureux de pouvoir renouer connaissance avec lui. « Le voilà qui va tomber dans le guépier des roués de l'époque, » dit Rastignac. Les trois interlocuteurs se tournèrent vers un coin où se tenaient quelques beaux esprits, des hommes plus ou moins célèbres et plusieurs élégants. Ces messieurs mettaient en commun leurs observations, leurs bons mots et leurs médisances, en essayant de s'amuser ou en attendant quelque amusement. Dans cette troupe si bizarrement composée se trouvaient des gens avec qui Lucien avait eu des relations mêlées de procédés ostensiblement bons et de mauvais services cachés. « Eh bien, Lucien, mon enfant, mon cher amour, nous voilà rempaillés, rafistolés. D'où venons-nous? Nous avons donc remonté sur notre bête à l'aide des cadeaux expédiés du boudoir de Florine. Bravo, mon gars !» lui dit Blondet, en quittant le bras de Finot, pour prendre familièrement Lucien par la taille et le serrer contre son cœur. Andoche Finot était le propriétaire d'une revue où Lucien avait travaillé presque gratis et que Blondet enrichissait par sa collaboration, par la sagesse de ses conseils et la profondeur de ses vues. Finot et Blondet personnifiaient Bertrand et Raton, à cette différence près que le chat de La Fontaine finit par s'apercevoir de sa duperie et que, tout en se sachant dupé, Blondet servait toujours Finot. Ce brillant condottiere de plume devait, en effet, être pendant longtemps esclave. Finot cachait une volonté brutale sous des dehors lourds, sous les pavots d'une bêtise impertinente, frotté d'esprit comme le pain d'un manœuvre est frotté d'ail. Il savait engranger ce qu'il glanait, les idées et les écus, à travers les champs de la vie dissipée que mènent les gens de lettres et les gens d'affaires politiques. Blondet, pour son malheur, avait mis sa force à la solde de ses vices et de sa paresse. Toujours surpris par le besoin, il appartenait au pauvre clan des gens éminents qui peuvent tout pour la fortune d'autrui sans rien pouvoir pour la leur. Des Aladins qui se laissent emprunter leurs lampes. Ces admirables conseillers ont l'esprit perspicace et juste quand il n'est pas tiraillé par l'intérêt personnel. Chez eux, c'est la tête et non le bras qui agit. De là le décousu de leurs mœurs et de là le blâme dont les accablent les esprits inférieurs. Blondet partageait sa bourse avec le camarade qui l'avait blessé la veille. Il dînait, trinquait, couchait, avec celui qui l'égorgerait le lendemain. Ces amusants paradoxes justifiaient tout. En acceptant le monde entier comme une plaisanterie, il ne voulait pas être pris au sérieux. Jeune, aimé, presque célèbre, heureux, il ne s'occupait pas, comme Finot, d'acquérir la fortune nécessaire à l'homme âgé. Le courage le plus difficile est peut-être celui dont avait besoin Lucien en ce moment pour couper Blondet, comme il venait de couper Madame d'Espard et Châtelet. Malheureusement chez lui, les jouissances de la vanité gênaient l'exercice de l'orgueil, qui, certes, est le principe de beaucoup de grandes choses. Sa vanité avait triomphé dans sa précédente rencontre. Il s'était montré riche, heureux et dédaigneux avec deux personnes qui jadis l'avaient dédaigné, pauvre et misérable. Mais un poète pouvait-il, comme un diplomate vieilli, rompre en visière à deux soi-disant amis qu'il avait accueillis dans sa misère, chez lesquels il avait couché durant les jours de détresse? Finot, Blondet et lui s'étaient avilis de compagnie. Ils avaient roulé dans des orgies qui ne dévoraient pas que l'argent de leurs créanciers. Comme ces soldats qui ne savent pas placer leur courage, Lucien fit alors ce que font bien des gens dans Paris. Il compromit de nouveau son caractère en acceptant une poignée de main de Finot, en ne se refusant pas à la caresse de Blondet. Quiconque a trempé dans le journalisme, ou y trempe encore, est dans la nécessité cruelle de saluer les hommes qu'il méprise, de sourire à son meilleur ennemi, de pactiser avec les plus fétides bassesses, de se salir les doigts en voulant payer ses agresseurs avec leur monnaie. On s'habitue à voir faire le mal, à le laisser passer. On commence par l'approuver, on finit par le commettre. À la longue, l'âme sans cesse maculée par de honteuses et continuelles transactions s'amoindrit, le ressort des pensées nobles se rouille, les gonds de la banalité s'usent et tournent d'eux-mêmes. Les alcestes deviennent des philintes, les caractères se détrempent, les talents s'abâtardissent, la foi dans les belles œuvres s'envole. Tel qui voulait s'enorgueillir de ses pages se dépense en de tristes articles que sa conscience lui signale tôt ou tard comme autant de mauvaises actions. On était venu, comme Lousteau, comme Vernou, pour être un grand écrivain. On se trouve un impuissant folliculaire. Aussi, ne saurait-on trop honorer les gens chez qui le caractère est à la hauteur du talent. Les d'Arthez, qui savent marcher d'un pied sûr à travers les écueils de la vie littéraire. Lucien ne sut rien répondre au patelinage de Blondet, dont l'esprit exerçait d'ailleurs sur lui d'irrésistibles séductions, qui conservait l'ascendant du corrupteur sur l'élève, et qui d'ailleurs était bien posé dans le monde par sa liaison avec la comtesse de Montcornet. « Avez-vous hérité d'un oncle ?» lui dit Finot d'un air railleur. « J'ai mis comme vous les sceaux en coupe réglée, » lui répondit Lucien sur le même ton. « Monsieur aurait une revue, un journal quelconque ?» reprit Andoche Finot avec la suffisance impertinente que déploie l'exploitant envers son exploité. « J'ai mieux, » répliqua Lucien, dont la vanité blessée par la supériorité qu'affectait le rédacteur en chef lui rendit l'esprit de sa nouvelle position. « Et qu'avez-vous, mon cher ? J'ai un parti. »« Il y a le parti Lucien, » dit en souriant vers nous. « Finot, te voilà distancé par ce garçon-là, je te l'ai prédit. Lucien a du talent. Tu ne l'as pas ménagé, tu l'as roué. Repens-toi, gros butor, » reprit Blondet. Fin comme le musc, Blondet vit plus d'un secret dans l'accent, dans le geste, dans l'air de Lucien. Tout en l'adoucissant, il sut donc resserrer par ses paroles la gourmette de la bride. Il voulait connaître les raisons du retour de Lucien à Paris, ses projets, ses moyens d'existence. « À genoux devant une supériorité que tu n'auras jamais, quoi que tu sois, Finot, » reprit-il. « Admets, monsieur, et sur le champ, au nombre des hommes forts à qui l'avenir appartient, il est des nôtres. Spirituel et beau, ne doit-il pas arriver par tes quibuscumque vivis ? Le voilà dans sa bonne armure de Milan, avec sa puissante dague à moitié tirée et son pennon arboré. Tudieu, Lucien, où donc as-tu volé ce joli gilet ? Il n'y a que l'amour pour savoir trouver de pareilles étoffes. Avons-nous un domicile ? Dans ce moment, j'ai besoin de savoir les adresses de mes amis, je ne sais où coucher. Finot m'a mise à la porte pour ce soir, sous le vulgaire prétexte d'une bonne fortune. « Mon cher, » répondit Lucien, « j'ai mis en pratique un axiome, avec lequel on est sûr de vivre tranquille. Fugue, late, taque. Je vous laisse. » « Mais je ne te laisse pas que tu ne t'acquittes envers moi d'une dette sacrée, ce petit souper, hein ? » dit Blondet, qui donnait un peu trop dans la bonne chère et qui se faisait traiter quand il se trouvait sans argent. « Quel souper !» reprit Lucien en laissant échapper un geste d'impatience. « Tu ne t'en souviens pas ? Voilà où je reconnais la prospérité d'un ami. Il n'a plus de mémoire. » « Il sait ce qu'il nous doit, je suis garant de son cœur !» reprit Finot en saisissant la plaisanterie de Blondet. « Rastignac !» dit Blondet en prenant le jeune élégant par le bras, au moment où il arrivait en haut du foyer et auprès de la colonne où se tenaient les soi-disant amis. « Il s'agit d'un souper, vous serez des nôtres. « À moins que monsieur, reprit-il sérieusement en montrant Lucien, ne persiste à nier une dette d'honneur, il le peut. « Monsieur de Rubempré, je le garantis, en est incapable, dit Rastignac qui pensait à tout autre chose qu'à une mystification. « Voilà Bixiou, s'écria Blondet, il en sera. Rien de complet sans lui. Sans lui, le vin de champagne m'empâte la langue et je trouve tout fade, même le piment des épigrammes. « Mes amis, dit Bixiou, je vois que vous êtes réunis autour de la merveille du jour. Notre cher Lucien recommence les métamorphoses d'Ovide. De même que les dieux se changeaient en de singuliers légumes et autres pour séduire des femmes, il a changé le chardon en gentilhomme pour séduire quoi ? Charles X. « Mon petit Lucien, dit-il en le prenant par un bouton de son habit, un journaliste qui passe grand seigneur mérite un joli charivari. À leur place, dit l'impitoyable railleur en montrant Finot et Vernoux, je t'entamerai dans leur petit journal. Tu leur rapporterais une centaine de francs, 10 colonnes de bons mots. Bixiou, dit Blondet, un amphitryon nous est sacré 24 heures auparavant et 12 heures après la fête. Notre illustre ami nous donne à souper. Comment, comment ? Reprit Bixiou. Mais quoi de plus nécessaire que de sauver un grand nom de l'oubli, que de doter l'indigente aristocratie d'un homme de talent ? Lucien, tu as l'estime de la presse, de laquelle tu étais le plus bel ornement, et nous te soutiendrons. Finot, un entrefilet au premier pari. Blondet, une tartine insidieuse à la 4e page de ton journal. Annonçons l'apparition du plus beau livre de l'époque, L'Archer de Charles IX. Supplions Doria de nous donner bientôt les marguerites, ces divins sonnets du Pétrarque français. Portons notre ami sur le pavois du papier timbré qui fait et défait les réputations. Si tu veux à souper, dit Lucien à Blondet, pour se défaire de cette troupe qui menaçait de se grossir, il me semble que tu n'avais pas besoin d'employer l'hyperbole et la parabole avec un ancien ami, comme si c'était un niais. À demain soir, chez Lointier, dit-il vivement, en voyant venir une femme vers laquelle il s'élança. « Oh, oh, oh !» dit Bixiou sur 3 tons, et d'un air railleur, en paraissant reconnaître le masque au devant duquel allait Lucien. « Ceci mérite confirmation. »